Bien, ok. Donc, nos séances sur le Gvorot Hashem, en vérité, ça fait très longtemps, puisque à la fin du chapitre 29, nous nous étions engouffrés sur les signes des animaux cachers et des animaux pas cachers. Et on était parti dans les Likoutei Halakhot de Rabbi Nathan, élève de Rabbi Nachman de Breslav. On a fait beaucoup de séances là-dessus. Et là, on va commencer le chapitre Shloshim, chapitre 30. OK. Alors, donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, notre méthode est un travail en commun, c'est-à-dire on va aborder le texte des Psukim et le texte du Maharal. Or, le Maharal, disons, a une pertinence quand on fait un travail en commun. Un travail en commun. Alors, on va prendre le chapitre E dans Shemot. Donc, prenez un chumash Shemot. Vachar baou Moshe ve'Aaron. Regardez, on va prendre peut-être le pasouk même d'avant, le chapitre d'Alet, pasouk lame d'Alef. Donc, je reprends Shemot, chapitre d'Alet, pasouk lame d'Alef. Vayamen Aam, Vaishmeu, qui pakad Hashem et bene Israël, qui ra'a et onyam, vegdu, veishtachav. Vayamen Aam, le peuple a eu confiance et ils entendirent bien que l'Éternel a porté son attention aux enfants d'Israël, qu'il a vu leur souffrance. Ils se sont courbés et se sont prosternés. Pasouk d'après. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron, va'yomu el paro, ko amar Hashem Elokei Israël, shalar et ami ve'yachoguli ba'midbar. Donc là, c'est pasouk central. C'est la première fois depuis que Dieu a mandaté Moshe qu'il va voir Pharaon. Vachar baou Moshe et Aaron, après vinrent Moshe et Aaron, et ils dirent à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, envoie mon peuple qu'il me fasse une fête dans le désert. Alors, ici, il y a une anomalie. L'anomalie est que Hachem a dit à Moshe et Aaron qu'ils aillent en compagnie des Ékénim, des anciens d'Israël. Qu'ils aillent en compagnie des anciens d'Israël, voire Pharaon. Or, nous voyons, Achar Baou, Moshe et Aaron. Ils arrivent que Moshe et Aaron. Regardons Rashi, très très important. Pasouk Alev dans Rashi. Damien, tu as Rashi? Ouais, yes. Benjamin Frewa? Non, pas Rashi?
Je suis en cours. Non. En cours de Rashi.
Alors, regardez avec les matériels informatiques, on peut tout avoir aujourd'hui. Vous pouvez avoir Sefaria. Par contre, je n'ai pas de pratique de Sefaria. Vous avez Otsar HaChorma, où tout est en accès libre pendant le coronavirus. Otsar HaChorma a mis tout en libre. Accueil, il y a aussi Hebrew Books, on peut tout avoir. Mais par contre, il faut avoir le texte parce que sinon, déjà que j'ai l'impression avec la vidéo machin que je suis à la télé, j'ai fait la télé, s'il n'y a pas le texte, là, je.
Sur le portable, sur le portable.
Comment ?
C'est sur le portable, ouais.
Je ne suis pas d'un caractère dépressif, mais ça me. Ok. Alors. Donc, le Passouk Aleph. Donc, après, viennent Moshe Aaron et dire à Pharaon. Il y a une anomalie. Pourquoi ? Après, viennent Moshe et Aaron. Rashi. Aval Azekenim. Nishmetu Echad ve Echad. Meacha Moshe ve Aaron. Al She Nishmetu Kulam. Kulam. Kodem. Shigiu le Palatin. Donc, je reprends. La mission de Moshe Rabbeinu était qu'il aille avec Aaron et les Ekenim, c'est-à-dire il y avait dans le peuple d'Israël, il y avait des anciens, qu'il aille, les responsables du peuple d'Israël, et qu'il aille en leur compagnie voir Pharaon. Or là, on voit qu'il n'y a que Moshe et Aaron qui arrivent. Les Ekenim se sont retirés l'un après l'autre jusqu'à ce que Moshe Aaron arrive et que tous, finalement, ils sont partis. Nous partîmes 500 et par... Comment c'est la suite ? Damien ?
Non, je ne l'ai pas.
Dans le CID ? Ouais. Nous partîmes 500. Arnaud, comment c'était le CID ? Enfin, peu importe. En tout cas, ils partent 500, mais ils arrivent à 2. Pourquoi ? Parce que le fils Rachidi le fit chez Hirou la Lechet, parce qu'ils ont eu peur d'affronter Pharaon. Au Bessinaï, Nifra la M. Au Sinaï, ils ont été punis. Vénigash Moshe le Vado, Vehem lo Igashu. Moïse s'est approché de Dieu. Et eux ne se sont pas approchés. Irziram la choreem, Dieu les a renvoyés en arrière. C'est-à-dire que la capacité avait été d'affronter Dieu, la parole de Dieu, est relative à la capacité qu'on a d'affronter la pression sociale. C'est-à-dire, si toi, tu as peur de la pression sociale, ben, tu peux pas écouter Dieu. Tu vois ? Et au Mont Sinaï, Dieu a dit non, dégagez les mecs. Pourquoi ? C'est la juste mesure du fait qu'ils n'ont pas eu la force intérieure de se présenter devant Pharaon, bien que Dieu leur avait dit, bien que Dieu leur avait dit. D'ailleurs, dans chapitre Yud-Bet, dans Shemot, le premier rashi de la paracha qu'on appelle paracha Tachodesh, regardez, lorsque Dieu va donner sa première parole en Égypte, son premier commandement à l'ensemble des enfants d'Israël, chapitre Yud-Bet Pasuk Aleph. Alors, regardez, dites-moi si vous avez le texte, parce que, regardez, moi, je n'aime pas travailler tout seul. J'aime pas.
Non, mais on le met dans le chat, là. En fait, tu vois, Gérard, sur la droite, là, on a fait copier-coller pour les personnes qui n'ont pas le texte. Donc, converser, tu dois avoir un bouton converser en bas de l'écran. Et donc, il y a Yohanan Itzrak qui a mis le lien Sepharia. Moi, j'ai même fait copier-coller. Tu vois.
Alors maintenant, le lien Sepharia sur Yud-Bet Pasuk Aleph dans Rashi.
Tout de suite, ça arrive. Alors, Rashi, c'est ça ?
Oui. Yomer Hashem, El Moshe ve El Aaron.
Bishvil chez Aaron Tarar, bah.
C'est ça, exact.
Ouais, voilà. Voilà.
Donc là maintenant, au chapitre Yudbet, nous allons voir la même chose. Vayomer Hashem El Moshe Velaron Beretz Mitzrayim les morts. Dieu a dit à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant Achodesh Azel Lachem Rosh Chodeshim Rishon Ulachem Lechodesh Hashana. Ce renouveau de la lune est pour vous le premier des mois, etc. Donc c'est la mitzvah de sanctifier le mois. Et alors le verset dit que Dieu a parlé à Moshe et à Aaron. Donc pour dire le premier commandement qui s'adresse à l'ensemble des enfants d'Israël. Regardons Rashi. Pourquoi ce n'est pas écrit Vayomer Hashem El Moshe? Pourquoi Moshe et Aaron? Pourquoi ici Aaron est distingué dans la première parole que Dieu va dire? Vayomer Hashem El Moshe Vel Aaron. Bishvil, chez Aaron, Asav et Tarar be Moftim, ke Moshe, chileklo kavod ze be mitzvah rishona. Par le fait que Aaron s'est investi dans les prodiges comme Moïse, alors l'honneur lui a été donné d'être mentionné avec Moïse dans le premier commandement qui s'adresse à tous les enfants d'Israël. Donc ici on voit que Aaron s'est investi lui-même dans les prodiges, de faire les prodiges devant Pharaon, et il ne s'est pas défilé. Et c'est par cela que le premier commandement s'adresse à lui et à Moshe et à lui de concert. Il lui a donné cette importance. Donc on voit ici que s'investir, de faire les prodiges devant Pharaon et a donné la possibilité d'être mentionné dans l'écoute des commandements de Dieu. Donc on voit quelqu'un qui a peur de la, comment dire, il a peur de ce que les gens vont dire, de la pression sociale, etc. Il ne peut pas avoir d'écoute de la parole de Dieu. Il ne peut pas. D'ailleurs, le Shulchan Arour s'exprime de cette manière. Je vais chercher les premières lignes du Shulchan Arour. Je vais vous rapporter première Shulchan Arour. Une seconde. Yafa, ça vous dérange pas, regardez. Fondamentalement, ce n'est pas un cours mixte. Maintenant, je tolère qu'il y a des dames qui l'écoutent parce que là, on est en vidéoconférence. Mais voilà, merci. Si vous pouvez me mettre en cache, ça ne vous dérange pas.
D'accord, pas de problème.
Excusez-moi, je me permets.
Vous avez raison.
Voilà, merci. Alors. Le premier paragraphe du Shulchan Arour, de tout le Shulchan Arour, il commence par plusieurs choses, mais dans le premier paragraphe, Rabbi Moshe Isserles dit « Velo itbayesh mipne bene adam amaligim alab avodat Hashem itbarar » et qu'il n'ait pas honte devant les hommes qui se moquent de lui quand il sert l'Éternel. Première ligne du Shulchan Arour, qui n'est pas honte devant les gens qui se moquent de lui parce qu'il sert Hachem. C'est le premier paragraphe du Shulchan Arour, extrêmement important. Et ici on voit que aller voir Pharaon, Dieu a demandé d'aller voir Pharaon. C'est bon. Eh bien, on voit ici que les anciens, ils ont eu peur. Eh bien, après, ils n'ont pas reçu la parole d'Hachem directement. Il a fallu passer par des intermédiaires. Ok. Pasouk Bet. Ah, regardez. Ça, c'est le pasouk historique. Vayomer Paro. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Le Shalar est Israël. Lo Yadati est Hachem. Et Gam est Israël. Lo Hachaler. Pharaon dit, qui est Hachem pour que j'écoute sa voix, pour envoyer Israël? Je ne connais pas Hachem et Israël, je ne renverrai pas. Bon, évidemment, il y a énormément de commentaires là-dessus. Le sens simple, c'est que le tétragramme, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas le tétragramme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est Yotke Vavke? Elohim, il connaît, mais pas Yotke Vavke. Est-ce que vous comprenez la différence? Nous?
Elohim, c'est la force de la nature. Gematria Hateva.
Alors?
Donc, c'est le régisseur de l'univers. Ça, il connaît. Mais Yudke Vavke, le principe de la matrice, Rahamim.
C'est quoi?
Le principe de Rahamim, il ne connaît pas. On a une relation avec lui, non? Je n'ai pas bon, là, à l'examen?
Non, on peut dire peut-être...
Elohim, c'est le dieu qui écrase, voilà. C'est le dieu qui régit la nature, qui
voilà. Voilà. Maintenant, au niveau simple, Yotke Vavke, c'est le Dieu qui s'exprime dans l'histoire humaine. Yotke Vavke, c'est que le Créateur s'exprime de manière libre à l'intérieur de sa création. Cueillez, si vous voulez, par exemple, vous voyez, il y a dans la culture occidentale ce qu'on appelle le grand horloger de l'univers. Ça, c'est le dieu du 18e siècle, le grand horloger de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une puissance supérieure qui a mis tout en place, voilà, qui a mis tout en place dans la nature, etc. Ça, ça il connaît. Mais que... qu'on dit Hachem ou Elohim. Bonsoir, Jonathan.
Bonsoir, désolé pour le retard.
Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le métro, il ne marchait pas, là, ce soir. Alors, on dit Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que Yudke Vavke est le même Dieu que le Dieu de la nature, que celui qui s'exprime à l'intérieur de l'histoire humaine soit le même Dieu que celui de... Venez par exemple aujourd'hui. Par exemple aujourd'hui. Moi, je m'interroge sur le... Je parle ici en France. La difficulté insurmontable qu'ont les Français de dire, de reconnaître qu'il y a un dessein divin dans cette histoire du coronavirus. C'est impossible. Ils préfèrent mourir que peut-être s'interroger là-dessus. Dit, bon, c'est la nature. Il y a un Chinois, il a mangé une chauve-souris. Voilà. Et cet imbécile d'Agnès Buzyn, elle n'a pas distribué des masques. Voilà. Donc, ça, voilà. C'est là où on en est. C'est là où on en est. Je pense que la réflexion ne va pas beaucoup plus loin. Si tu vas essayer de réfléchir, peut-être que ça signifie quelque chose, tu vas dire, ouais, toi, tu es un intégriste, un fanatique, etc. C'est l'imam du coin qui t'a retourné le cerveau, que sais-je. On s'en fout de tout ça. Essayons de réfléchir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est, c'est-à-dire, c'est un suicide. C'est un suicide. Un suicide, comment dire, de civilisation, de s'interroger là-dessus. C'est un suicide. C'est impossible. C'est pas possible. Ça, c'est Pharaon. Mi Hachem, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire que Hachem s'exprime dans l'histoire humaine. Non, c'est pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mi Hachem, ça n'existe pas. N'existe pas. Je veux pas entendre parler de ça. Ça n'existe pas.
La Avoda Zara, c'est pas la philosophie non plus. Hein.
Comment?
La Avoda Zara, ce n'est pas la philosophie non plus. On peut pas vraiment comparer. Non, mais on peut pas comparer. Vous comparez le monde actuel en France à Paro, mais Paro, c'est quand même quelqu'un qui est a priori dans la culture égyptienne, qui était un dieu sur terre. Donc c'est quand même on est dans le religieux. Alors qu'en France,
oui,
non,
mais, c'est oui,
religieux, c'est ça
oui,
que je veux
oui,
dire.
Oui, oui,
c'est non, plus mais, proche de la Grèce, pour ça.
Et si tu veux, moi je me base sur Rambam, dans le premier chapitre de l'Halakhot Avodah Zarah, sur qu'est-ce que c'est l'Avodah Zarah. Mais les commentateurs expliquent qu'il n'a pas dit « mi Elohim », il a dit « mi Hachem ». Son problème, ce n'est pas Elohim. Elohim, ça va. Son problème, ce n'est pas Elohim. Son problème, c'est Yudke Vavke. Son problème, c'est Yudke Vavke. Alors, évidemment, il y a beaucoup de commentateurs sur tous ces sujets, mais au sens simple, je dirais mi Hachem, c'est Hachem qui agit librement dans la création, dans la nature, à travers les lois de la nature. Et ça, tu regarderas Rambam dans les premières halakhot de l'halakhot Avodah Zarah, c'est Rambam qui développe cela. Que les idolâtres ne niaient pas qu'avait un Dieu créateur. Les idolâtres premiers ne niaient pas cela. Mais que ce Dieu créateur soit libre à l'intérieur de sa création, ça, tu vois, tu parles avec quelqu'un, je ne sais pas, dans la rue, quand il y a des gens dans la rue. Imaginons qu'il y ait des gens dans la rue. Donc, tu rencontres quelqu'un dans la rue, lorsqu'il y avait des gens dans la rue, tu dis, s'il vous plaît, est-ce que vous croyez en Dieu? Ah oui? Oh, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas qu'il y ait un Dieu. Mais par contre, que ce Dieu, il s'occupe de nos petites histoires à nous. Non, pas du tout. Oh, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'idolâtre. Ça, c'est l'idolâtre. OK. Mi Hachem, 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 Bekolo. Voilà. Verset d'après. Vayomru. Eloke, Aivrim, Nikra, Alenu. Nel Rana derer Shloshet Yamim Bamidbar Venizbecha Lashem Elokenu Pen Ivgainu Badever Obecharev. Ils dirent donc Moshe et Aaron. Eloke Aivrim Nikra Alenu. Le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Allons, s'il te plaît, 3 jours dans le désert. Sacrifions à l'Éternel notre Dieu. Traduisez ça, sinon je pique ma crise. Toc. Allons, 3 jours dans le désert. Nisbera l'Hachem Elokenu. Sacrifie à l'Éternel notre Dieu de peur. Pen Ivgaïnu Badever Obecharev. Traduisons, monsieur Vanish. Nous, allez, on bouge là un peu du nerf. Jonathan.
Bon, évidemment, je n'avais pas activé mon micro. Allons 3 jours dans le désert, enfin, pour un chemin de 3 jours dans le désert. Vénisbecha Hashem Elokeinu, et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste et par l'épée.
Ok. Vous voyez bien qu'il y a un bug. Constantin, notre ami Constantin, mets ton micro là.
Activé.
Est-ce que tu vois le bug qu'il y a dans le verset ?
L'épée, on voit que c'est direct et la peste, c'est indirect, non ? Et du coup, il réunit les deux.
Regardez, respirez à fond. Fais un peu de relaxation.
Non, mais le premier problème, c'est qu'on a envie qu'il nous libère, pas juste pour aller faire 3 jours d'excursion, non ?
Mais c'était une filouterie.
Le bug, c'est la réponse que la question de Paro, c'est sur le Shem Hashem, c'est sur le Shem Havaya, et eux, ils répondent par éloqué, c'est-à-dire qu'ils répondent en répondant pas par rapport au Shem Hashem. En répondant d'Afka dans
au contraire, il rentre dans son jeu, il rentre dans le jeu de Pharaon. Nous, Elohim, on connaît. Oui, toi, tu connais, c'est Elohim. Ok, on va dans le sens d'Elohim. Oui, on va dans le sens d'Elohim. Mais que dire le sujet, c'est pen ivgaenu badever becharev.
Parce qu'il dit que sur nous, la peste et le glaive. Il dit sur nous, alors que c'est sur l'Égypte que ça va arriver.
Ben voilà, exactement. C'est-à-dire, tu vas faire une menace. Ouais. Laisse-nous partir. Ouais. Sinon, tu vas être frappé, toi, par le glaive ou par la peste. Pas nous, on va être frappé. Ça tient pas debout. Damien, c'est clair ?
Oui, c'est bon.
Ça va pas. C'est un bug. Peut-être qu'il faut corriger le verset.
Ils sont pas obligés de commencer.
Tu nous passes le Tipex ?
C'est une manière de se mettre en dessous de Pharaon. C'est du respect.
Ah, voilà. Alors, c'est ce que Rashi va dire. Regardez le commentaire de Rashi. Commentaire de Rashi. Rashi sublime. Pen ivga echa, ayotzrim lomar. Ils auraient dû dire, de peur que tu sois frappé. Ils viennent le menacer. Attention, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est révélé à nous. Il nous a dit qu'on aille faire son culte 3 jours dans le désert. Laisse-nous un chemin de 3 jours pour qu'on fasse le culte pour notre Dieu. De peur que tu sois frappé par le glaive ou par la peste. Qu'est-ce que ça veut dire, de peur que nous soyons frappés ? De peur que tu sois frappé, Ayusrim Loma. Et là, Shechilku Kavol la Malchut, ils ont conféré de l'honneur à la royauté.
Peut-être qu'ils se sentaient juifs d'Égypte.
Regardez ici. Là, si ce soir on entend ça, daïez-nous. Daïez-nous, ça aura suffi. Imagine, je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Machia. Le Mashiach, je ne sais pas, un petit juif de l'école, Lucien de Hirsch. Il va voir Macron. Ouais. Il va lui dire, voilà, l'Éternel, le Dieu, celui qui a envoyé le coronavirus, machin, bidule, ouais, m'a envoyé chez toi pour nous dire que tu aides Bibi Netanyahou à faire des implantations en Cisjordanie. Ouais. Sinon, on sera frappé par le glaive et par le glaive et la peste. C'est Dieu m'a mandaté pour venir te voir. Et si ça ne marche pas, de peur que nous soyons frappés. C'est un problème.
On respecte le pouvoir de Pharaon de décider par... on invoque son, c'est un peu sa pitié ou quoi. Donc son, le roi, normalement, il fait attention à ses sujets. Bon, on sait que les Hébreux n'étaient pas forcément bien... ils se comportaient mal, on va dire. Enfin, c'était des esclaves. Mais même s'ils sont esclaves, le Pharaon... doit faire attention à sa main d'œuvre. Et donc le fait de demander de présenter ça comme ça, on laisse le choix à Pharaon d'appliquer justement sa royauté, de dire ok, faut pas que vous arrivez des bricoles, allez-y, revenez.
C'est Constantin qui parle, je te vois pas là. Ouais. Mais je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en vérité, ce qu'ils disent, c'est que c'est toi qui seras frappé. En vérité, ce qu'il est en train de le dire, c'est toi qui vas être frappé par le glaive et par la peste. Mais ils ne sortent pas de leur bouche. Non, ils sont en train de le dire. Laisse-nous partir, sinon on sera frappé. Mais c'est toi qui seras frappé. Mais par égard, ils ne le sortent pas de la bouche. Mais en vérité, c'est ça ce que ça veut dire, tu seras frappé.
D'accord.
Mais quel égard tu as ? Quel égard, puisque tu vas là, ils vont mettre ils vont mettre à bas l'Égypte. L'Égypte, ils vont la liquider. Alors quel égard tu as?
Peut-être ça veut dire que même si on est frappé, on est prêt à être frappé pour être libéré.
Non, je pense que non, je suis dans Rachi.
Rachi, ce qu'il veut dire.
Rachid, ce qu'ils veulent dire, c'est de peur que tu sois frappé. Si tu ne nous laisses pas partir, tu vas être frappé par le glaive et par la peste. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Tu vas être frappé. Mais, à la dernière minute, par égard, ils peuvent pas lui parler de front. En vérité, c'est ça ce qu'ils sont en train de le dire.
Ils ont pas cédé un peu à la pression sociale.
Comment ?
Ils n'ont pas un peu cédé à la pression sociale en faisant ça?
C'est juste. Non, c'est kavod. C'est pas la peur. C'est le kavod.
Mais pourquoi donner du kavod à un melech qui est un obdé kochavim qui est... C'est quoi le inyan? Donner du kavod à la malchoute. Parce que la malchoute, dans les chotes de Malchut du Rambam, il explique que le Maler, s'il a une place, il parle du Maler, a priori du Maler plutôt en Israël. Mais là, la Malchut, c'est comment on peut dire, c'est pas la Malchut de.
Il vaut mieux un pouvoir injuste que pas de pouvoir du tout.
Comment ?
Il vaut mieux un pouvoir injuste que pas de pouvoir du tout. Un pouvoir injuste, c'est un pouvoir, c'est. C'est mieux que pas de pouvoir du tout. Et c'est pas parce qu'il va être détruit qu'il faut lui manquer de respect.
Comment ?
C'est pas parce qu'il va être détruit qu'il faut lui manquer de
Ça, c'est ce que dit Rashi. Essayons d'intérioriser ce point. Regardez, je vais vous prendre un exemple à l'arik légal et on va voir est-ce que ça éclaire un peu ou non.
Rav, juste une question. Oui. Est-ce que ce serait pas un peu aussi le tout le paradoxe des plaies, ça veut dire est-ce que ce ne serait pas pour laisser une possibilité à Paro de participer à la libération du peuple? Parce qu'on s'interroge aussi sur finalement pourquoi est-ce qu'on lui laisse le choix.
Alors, ça a été dit, hein, vous êtes plusieurs à dire dans ce sens, mais j'entendrais dans Rashi, non, il est en train de le menacer. Mais en le menaçant, il lui fait du kavod. Donc là, la remarque de Yohanan, c'est qu'il est en train de céder à une pression sociale. Ce n'est pas céder. Et ce n'est pas la peur, c'est du kavod. Alors Damien dit que le pouvoir, même un pouvoir impie, c'est un pouvoir. Et ça, il faut essayer d'intérioriser ça. J'essaie de reprendre. J'essaie de reprendre. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Il y a un débat. Lorsque la vie est en danger, Shabbat. Lorsque la vie... regardez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Mais il me semble que ça peut aider un petit peu. Lorsque la vie est en danger Shabbat, la halakha est que si, pour sauver la vie, il y a des interdits de Shabbat qui s'interposent dans le sauvetage, il faut repousser les interdits de Shabbat. Il y a un grand débat dans les Rishonim pour savoir est-ce que Shabbat est de chouya bifnei pikuar nefesh ou est-ce que Shabbat est outra bifnei pikuar nefesh. Ça veut dire lorsque par exemple le ma femme va accoucher Shabbat. Ma femme va accoucher Shabbat. Et il faut que je l'amène à la clinique d'urgence. Je l'amène à la clinique d'urgence. Ce qui m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Je l'amène à la clinique d'urgence. Maintenant, moi, je n'ai pas de voiture. Et je vais prendre un taxi, un Uber. Voilà, je prends. Donc, il faut que je fasse le numéro. Il faut que je fasse le numéro. D'accord ? Donc, il faut que je fasse le numéro. D'accord ? Bien. Pourquoi ? C'est la vie est en jeu. La vie est en jeu. Est-ce que je vais faire le numéro, normal, puisque je dois faire le numéro pour sauver la vie. Ou bien, si ça ne retarde pas, je vais essayer de faire des interdits rabbiniques plutôt que des... Je vais essayer d'économiser entre des interdits rabbiniques plutôt que des interdits de la Torah. Encore faut-il savoir qu'est-ce qui est rabbinique, qu'est-ce qui est la Torah. Mais, évidemment, il faut étudier les lois de Shabbat à fond. Maintenant, est-ce que dans le pikuar nefesh, j'essaie, malgré tout, c'est-à-dire, est-ce que quand il y a pikuar nefesh, au moment où je fais le sauvetage, il n'y a pas Shabbat, la tradition nous dit, il n'y a pas Shabbat, dans cet acte, il n'y a pas Shabbat, ou bien il y a Shabbat, mais je repousse Shabbat. Est-ce qu'il n'y a pas Shabbat, Shabbat est permis, ou bien je repousse Shabbat? Do you understand? Ça, c'est un grand débat. Et au niveau de la halakha, c'est un débat entre Maïmonide, par exemple, et Nachmanide.
Quelle est la nafkamina entre les deux? Je n'ai pas bien compris.
Prenons un exemple.
Dans la nafkamina, suivant si on dit que c'est...
Je prends un exemple. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui est très, très malade, sa vie est en danger. Il faut absolument que cette personne dorme bien. Et il y a de la lumière dans la pièce. Est-ce que j'éteins la lumière? Tac, ouais, j'éteins la lumière. Puisque, oui, ou bien, étant donné qu'il y a pikuar nefesh, mais je ne perds rien à faire l'interdit avec un chinouille, je vais éteindre avec mon coude. Je vais faire l'interdit, mais de manière que ça ne soit pas l'interdit d'après la Torah, mais interdit rabbinique. Ce que je peux économiser d'interdit, j'économise. Ou bien non. You understand? Prenons un exemple. Il faut faire une opération Shabbat. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il y avait un enfant, il fallait faire une opération. Pour que l'opération se fasse, il faut signer que le père de l'enfant signe à l'hôpital. Est-ce que cette signature, je la fais normale, ou bien je fais une signature avec la main gauche, par exemple, je suis droitier, avec la main gauche, pour que ça ne soit pas un interdit de la Torah. ça, ça veut dire, comprenons bien, est-ce que Shabbat, quand il y a Pikoa en Nefesh, lorsqu'il y a Pikoa en Nefesh, est-ce que Shabbat, il n'y a plus Shabbat à ce moment-là? Donc il n'y a plus Shabbat, je fais ce que j'ai à faire. Ou bien non, il y a Shabbat, mais Pikoa en Nefesh prime, ça repousse. Ça veut dire, il y a Shabbat, mais je repousse. Alors, ce sujet, au fil des années, j'ai médité sur ce sujet. Je propose l'enjeu comme ça. Ne le prenez pas mal, mais je veux dire, comme d'habitude, je dis, hein, c'est pas. L'imbécile va dire que c'est tellement important sauver la vie que la Torah dit sauver la vie prime par rapport à Shabbat. Donc, s'il y a sauvé la vie, il n'y a pas Shabbat. À ce moment-là, il n'y a pas Shabbat. Ça ne veut pas dire que si je prends la voiture pour amener la personne qui est en danger, que je dois écouter de la musique pendant ce temps. Non, écouter la musique, ça n'a rien à voir avec sauver la vie. Mais je sauve la vie, donc là maintenant, je suis opération sauver la vie, il n'y a pas Shabbat. Ou bien non, il y a Shabbat, il y a les lois de Shabbat, mais je repousse les lois de Shabbat. Alors, j'ai médité sur ce sujet et je propose la démarche suivante. Il y a deux manières de voir les choses. Une manière de donner l'importance à sauver la vie. C'est-à-dire, sauver la vie est tellement important que ça prime par rapport à Shabbat. Donc, au moment de sauver la vie, je suis l'opération de sauver la vie et pas de Shabbat. C'est une manière de dire. Mais je peux dire une manière peut-être supérieure à la chose. Pour montrer la force de sauver la vie, je veux dire, c'est tellement fort, sauver la vie, que même si Shabbat est là, quand même je repousse Shabbat. Donc ici, c'est la même chose. Pour montrer la force de Moshe à Aaron, dire toi t'es rien. Non, au contraire, dire que Pharaon est oui, existe. Oui, il y a une importance. Oui, il y a une importance. Je lui confère une importance. C'est pas, il n'existe pas, il existe. Il existe. Et nonobstant cela, nonobstant le fait qu'il existe, c'est pas une vue de l'esprit. Et même c'est très très important. Il est très très important. Et malgré ça, je m'oppose à lui. Le fait qu'il y a une opposition donne une importance à ma capacité de m'opposer à lui. Mais si lui, il n'existe pas, pour moi, c'est rien. Donc, ça ne montre pas ma force, puisque lui, il n'existe pas. Là, les Hegeliens en herbe. Non, il y a silence dans la salle. Hello. Oh, oh, oh. Non, ça va pas?
Si, on a besoin d'une résistance pour s'exprimer aussi.
Comment? Est-ce que c'est un peu clair ou c'est pas clair? Manu?
En conférant du kavod à Pharaon, on lui montre qu'il existe et donc s'il cède, ce sera un acte réel de sa part et s'il ne cède pas et qu'il y a des diplais, ce sera une vraie leçon qui sera apportée aux Égyptiens. C'est ce que je comprends. Bon. C'est-à-dire qu'on veut donner une leçon à quelqu'un qui existe pleinement. On se confronte en tout cas à quelqu'un qui existe pleinement.
C'est une confrontation. Une confrontation. C'est une confrontation.
Donc, on ne veut pas nier l'autre partie. En
fait. C'est comme si tu veux. C'est comme, par exemple, quelqu'un, il a une idée. Par exemple, nous, dans notre tradition, on recherche toujours la contradiction. On recherche toujours la contradiction. En vérité, si ta parole, elle supporte la contradiction, ça veut dire qu'elle en a plus de force. La plupart d'entre nous, c'est instinctif, on n'aime pas la contradiction. On veut avoir raison. Mais avoir raison, c'est avoir raison, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que ce que tu dis est faible.
C'est d'actualité, ça.
Comment ?
Je dis c'est d'actualité.
Pourquoi avec, d'actualité ?
Il y a beaucoup d'études sur certains traitements du virus actuel qui chantent les circuits habituels de revues par les pairs juste pour arriver directement dans le groupe public. Et justement, qui refuse la contradiction.
Ah, d'accord. Qui refuse les tests habituels, c'est ça ?
Ouais. Et qui refuse la critique de la communauté scientifique en général. Et c'est exactement ce qui se passe. On envoie dans les grands médias les résultats sans attendre les critiques habituelles des autres scientifiques qui disent oui, ça paraît pertinent ou non, c'est n'importe quoi.
D'accord. Donc là, c'est le en vérité, la force de Moshe Aaron est en donnant une place. Donnant une place à Pharaon. Pharaon existe. Il existe. Il a une réalité. Et plus à la limite je donne une réalité, plus je donne une force à ma confrontation. Sinon, ça veut dire c'est bon, toi t'es un nul, t'es rien, t'existes pas, t'es rien du tout, machin bidule, dégage patate, Dieu m'a parlé, got me tunes, j'ai Dieu avec moi, machin bidule. De toute façon, toi tu vas être un rien du tout, Dieu va t'écraser si tu. Ok. Mais là, c'est pas ce dont la Torah parle. Voilà. Cette démarche, c'est pas ce dont la Torah parle.
Mais je comprends pas pourquoi il utilise le mensonge.
Comment ?
Je comprends pas pourquoi il utilise un mensonge. En fait, c'est-à-dire que on peut très bien donner du kavod à quelqu'un sans pas mentir vraiment, mais sans. En plus, Moshe Rabbeinu, normalement, c'est plutôt la tribu d'Emet. Donc, c'est assez étonnant qu'il utilise ce procédé pour lui donner du kavod, quoi.
Il l'agresse. Mais il l'agresse, puisque dire, il est en train de lui dire, si tu ne nous laisses pas partir, tu vas être frappé. Tu vas être frappé. Donc il l'agresse. Mais ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Mais ils ne disent pas franchement. Parce que je reprends ce que dit Damien, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il y a du vrai dans la réalité. La réalité est réelle. La réalité, elle est réelle. Même si cette réalité est impie ou que sais-je, elle est réelle.
Mais on ne peut pas aussi voir le. Parce que, quand même, Paro, il se considère comme Dieu sur terre. Et on est quand même en train de lui dire que tu le veuilles ou pas, si tu ne nous donnes pas autorisation, on va recevoir la peste et le glaive. C'est-à-dire, tu ne pourras rien faire contre.
Tu vas recevoir. Toi, tu vas recevoir.
Oui, mais la formulation, on dit nous allons recevoir. Donc, ça veut dire que tu le veuilles ou pas, il va y avoir réception de la peste et du glaive. Donc, même si on lui fait un cavode sur la formulation, c'est vrai qu'on est quand même en train de lui dire que tu peux rien faire.
Il est en train de le foutre en l'air, mais avec une manière.
Voilà. Exactement.
Il est en train de le foutre en l'air. Il est en train de le foutre en l'air. Mais il a de la considération. Il a de la considération. Ok. Pasouk Dalet. Vayomer aleihem eler Mitzrayim. Vayomer alehem eleh Mitzrayim. Lama Moshe ve'Aaron tafriu et ha'am imasav. Le chou le sivlot echem. Il leur a dit, le roi d'Égypte, pourquoi Moshe et Aaron dérangez-vous le peuple de son travail? Le chou le sivlot echem. Retournez à vos labeurs. Alors, regardons Rashi. Le chou le sivlot echem. Regardez Rashi. Retournez à vos labeurs. Donc c'est Pharaon dit à Moshe, retournez. Pharaon dit à Moshe, Aaron, retournez à vos labeurs. Rashi. Le chou le sivlot echem. Le chou le mlach techem shiyesh lachem la sol bebatere. Retournez aux travaux que vous avez à faire dans vos maisons. Aval melacha melechet shiabud mitzrayim lo aita al shifto shel Levi. Mais il ne dit pas retournez à votre asservissement, car la tribu de Lévi n'était pas asservie. Donc là, c'est un tarashi central. Dans le texte, j'avoue que je suis un peu perplexe, parce que sivloterem, ça veut dire quand même vos labeurs. L'isvol, c'est subir. Hein? Mais Rashi nous dit, il ne dit pas retourner à votre asservissement, mais à votre tâche quotidienne. Rashi nous dit, parce que la tribu de Lévi n'était pas asservie. Teda lecha, la preuve. Share Moshe Aaron, Yotzim, Ubaim, Belorchut. La preuve, c'est que Moïse et Aaron sortent et rentrent sans permission. Ça veut dire, c'est des citoyens, ils sont comme tout le monde. Quoi. Ils rentrent, ils vont dans le palais. Il y a le gardien du palais, il dit qui dois-je annoncer? Maurice Lévy. Ouais. Oh, Maurice Lévy, il rentre. Il n'y a pas de problème, quoi. Comment il est rentré dans le palais? C'est vrai, c'est un problème. Si vraiment c'était un esclave avec des haillons et des trucs et des chaînes aux pieds, il n'arriverait pas dans le palais. Donc il arrive. Qui dois-je annoncer? Maurice Lévy. Ok, Maurice Lévy, rentrez. Pas de problème. Voilà. Donc il rentre. Donc ça veut dire que la tribu de Lévy n'était pas servie. Maintenant, j'avoue que du mot même, c'est étonnant, n'est-ce pas? Hein? Rabbi, que dites-vous?
Oui, ils avaient tellement de ménage à la maison que Paro leur dise les roues, les sivlotechem.
C'est un peu indigeste. Hein?
Ils épluchaient là les patates. On
comprend pas. En fait, ça veut dire retourner à vos travaux ménagers. Travaux ménagers, ça veut dire si ils se volent, c'est supporter. Regardez, je vais chercher, si vous le voulez bien, je vais chercher le Midrash pour voir comment s'exprimer dans le Midrash. Une seconde. Hein. Je vous lis le Midrash Rabba. Le rôle est sibloterem, retournez à vos labeurs. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Shifto shel Levi, panoui ayam avodat parer. La tribu de Lévi était libre des travaux forcés. Amarlo, Amarlaem Paro, Paro leur dit Bishvil shatem pnoui, matemri, lochan isbera lelokenu. Parce que vous êtes citoyens libres, vous allez dire aux esclaves, allez, allons sacrifier à notre Dieu, le chou, les siblotérem. Retournez à vos labeurs. C'est incroyable. Les bras m'en tombent. Alors, le Maharal va parler de ça. Hein. Ça va être le sujet qu'on va voir dans le Maharal. Mais c'est quand même stupéfiant. C'est stupéfiant. Donc, qu'ils eussent été libres, c'est une chose. Mais le déduire de ça, du vers, c'est de là qu'on l'apprend. J'avoue que là, le peu de latin que je savais, je le perds. Je perds mon latin.
C'est de cet endroit-là qu'on apprend ?
Oui, c'est de là qu'on apprend, mon ami. Ah voilà, c'est ça.
Ah ouais, voilà, c'est vraiment forcé. Hein.
Ah, voilà, merci.
C'est forcé. Hein.
Voilà, merci, mon ami.
Parce qu'au moment où Pharaon leur dit « Retournez à votre dur labeur », ben c'est de là qu'on apprend qu'en fait, ils n'avaient pas de labeur, ils avaient juste des tâches ménagères. Alors,
je vois que Rabbi Eliyahu Mizrahi, là, c'est des livres, que des commentaires sur Rashi. Rabbi Eliyahu Mizrahi fait une remarque. C'est que, regardez le verset. Rabbi Eliyahu Mizrahi relève. Si les siblotechem voulaient dire vos travaux forcés, juste avant, Lama Moshe Baron Tafri Weta Mima Asav, le rôle est siblotechem. Si, pourquoi vous dirigez le peuple de ses travaux? Mima, ça veut dire une seconde. Oui, parce que pourquoi il ne les a pas inclus. Il dit, pourquoi dérangez-vous le peuple de ses travaux, de vos travaux? Parce que eux aussi, si eux, ils sont inclus dans l'esclavage, ben, comment vous vous permettez de sortir des travaux du peuple? C'est le même travail. Si eux, ils sont dans le même travail, pourquoi il y a deux catégories? Pourquoi dérangez le peuple de ses travaux? Allez à vos labeurs. Mais allez le peuple de si eux ils sont inclus dans la même chose, pourquoi il y a deux catégories, il y a Massav et Sivlot? Donc ça veut dire que c'est pas la même chose. Le peuple a un travail et vous c'est autre chose. Sinon pourquoi vous dérangez le peuple de leurs travaux, de vos travaux, que vous aussi, qui vous incombe à vous, si vous aussi, vous êtes dans ces travaux, mais ma serrem, de vos travaux dans lesquels vous êtes vous-même. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les travaux du peuple. Pourquoi vous dérangez le peuple de vos travaux dans lesquels vous êtes vous-même? Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas, eux, dans les mêmes travaux. Ils ne sont pas dans les mêmes travaux. Alors, on va voir ça dans le Maharal. On va voir ça dans le Maharal parce que c'est un point extrêmement important que la tribu de Lévi n'était pas dans les travaux forcés. Alors, d'après mon souvenir, il y a un Dat Zekenim et Baal HaTosfot fondamental sur ce point. Une seconde. Alors, je vais vous lire le Dat Zekenim et Baal HaTosfot, c'est-à-dire dans l'édition classique des Mikraot Gedolot, sont imprimés des commentaires de l'école des Tosfot sur les versets. Alors, le Dat Zekenim dit comme ça. Kiresh Rashi, Shechevet Levi, lo nishtabet. La tribu de Lévi n'était pas asservie. Et ainsi, c'est enseigné dans le Midrash. Qui maîtrisa que Sheba la aime et parer, mais péra, que des chalines, amar Shevet Lévi. Parce qu'au début, on sait qu'il a asservi le peuple d'Israël, mais parer. Et parer, ça veut dire travaux forcés. Travaux forcés. Mais parer, les sages, font un jeu de mots, Perar, la bouche douce. La bouche douce. Parce qu'au début, Pharaon, il n'est pas rentré tout de suite dans un asservissement brutal. Il est allé avec de manière subtile. Amar. Il est venu par air. Amar Shevet Lévi, Atidi Manu Lavod Avodat Massa, chez la Kalosh Bokhu, Khalila, chez le Avod Shum Avoda, l'Irachazé, mais Shum Sakhar, Shitel Lanou. Banu Alevim Vamru, Kulam, Shenam Yodim Lasot, Levanim. C'est-à-dire, quand il a dit, regardez, on a un grand projet de faire de notre pays un peu archaïque, un pays moderne, avec des villes avec un urbanisme intéressant, et on va bien vous payer pour les travaux des briques. C'était pas obligé. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, c'est un projet intéressant. Ouais. Pourquoi pas, un projet intéressant, on peut se faire de l'argent, ouais, pourquoi pas. Et la tribu de Lévi qui eux avaient une tradition. Ils avaient une tradition que dans le peuple juif, plus tard, ils auraient le service de Dieu. Et ils se sont dit, nous, on va commencer à rentrer dans les travaux de ce rachat. Non, jamais. Ils n'étaient pas obligés, ils ne l'ont pas fait. Les autres se sont dit, bon, il faut marcher avec son temps, marcher avec le progrès, il faut de son temps, machin. Ils sont rentrés là-dedans. Et après, il a commencé à avoir des mesures discriminatoires. Mais ceux qui n'étaient pas entrés au départ ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'étaient pas leurs interlocuteurs. Ils ne pouvaient pas faire des mesures discriminatoires parce qu'ils n'étaient pas dans le circuit. C'est ce que le Midrash dit. Mais Otoyom, Véala, Lo Aya, Lo, à partir de ce moment-là, Lo Yalo, Pitron P, Lishol, Laem, Shum Davar, Avoda. À partir de ce moment-là, il n'avait aucun argument pour leur demander quoi que ce soit. Et Kacher Gadel Moshe, Vera, Bestiv Lotam, Shayum, Shubadim, Kol, Shivat, Yeme, Ashavua, Beloshom, Menoucha. Et quand Moïse, qui était de la tribu de Lévi, il a vu ses frères qui travaillaient 7 jours sur 7, Balo El Paro, Amar, est allé voir Pharaon, qui était son père adoptif, somme toute, il dit, Vechiyesh Uma, Shiora Lavod, Beli, Shum, Menoucha, Baolam, Ilu ayu nochim yom echa beshavua da kimelartera aita nivrechet venasit yafe. Il a dit, regarde, tu les fais travailler 7 jours sur 7, ils vont crever. Est-ce que ça existe de faire des gens, travailler des gens sans arrêt? Laisse-leur un jour de repos. Pharaon lui dit, ouais, c'est bien. Emor lahem, shivrehu lahem yom echa limnucha. Et il a dit, toi, qu'ils choisissent un jour. Ils ont choisi un jour de repos. Mais nasse laem nes ou bacherou laem yom shabbat. Et il y a eu un nes. Le jour qu'ils ont choisi, c'était le jour du shabbat. Vainu damar laem moshe beshmirat shabbat. Reu ki Hashem natan lachem ha shabbat. Ki mayom yotrem bemitzrayim natan lachem livror ha shabbat lanuar bo. C'est quand Moïse leur enseigne la loi du Shabbat plus tard. Mais regardez, Dieu vous a donné le jour du Shabbat. Qu'est-ce que veut dire regardez? Regardez, c'est le jour que nous avons respecté déjà en Égypte. C'est ce jour-là du repos en Égypte. En tout cas, on voit d'ici que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, Isma Moshe Bematanat Chelko. Moïse est joyeux dans la part. Maintenant, le cadeau de sa part, c'était lui en vérité qui avait organisé ce jour du Shabbat. Donc, c'est le mérite de Moïse, le jour du Shabbat. En tout cas, on voit que ils ne sont pas ceux qui avaient une tradition vivace. Ils sont, je pense d'ailleurs, excusez-moi, j'ai un petit délire entre nous, hein, un petit délire. En Israël, vous savez, il y a eu beaucoup de confrontations des gens pas religieux qui ont eu des comportements très très désobligeants par rapport aux religieux, par rapport aux lois du coronavirus, lois de distance, etc. Et ça a été repris dans les médias en France, n'importe quel média a repris ça, vous l'avez vu. Hein. En vérité, il me semble que ça ne veut pas dire que les Haredim ne respectent pas les lois de protection du coronavirus. Mais parfois, ce n'est pas un absolu. Parce que quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas des lois supérieures, pour lui, il n'a que les lois de protection. Donc, percevoir que ces lois dans lesquelles on met une foi absolue ne sont pas absolues, même si elles sont respectées, mais rien qu'elles ne sont pas absolues, c'est insupportable. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que au départ, il y avait des gens, ils avaient autre chose de la vie, que faire des risettes à Pharaon. Pharaon, il leur dit, on va faire un grand projet, construire une société, faire des villes, etc. Et on vous paye pour le faire. Bon, il y en a plein, ils se sont dit, bon, il faut, on est dans un pays, il faut vivre avec les gens de son pays, etc. Ils sont entrés dans l'histoire. Donc, il avait un contact avec eux. Après, il a fait des mesures discriminatoires. Il y en a, ils ne sont pas rentrés dans le circuit, donc ils ne pouvaient rien leur demander. Ils n'étaient pas dans le circuit. Ils ne sont pas dans le circuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière récurrente dans l'histoire juive. On voit dans l'histoire qu'on a vue avec plusieurs d'entre vous X fois, que dans le festin d'Assuérus, ils n'étaient pas obligés d'aller au festin d'Assuérus. Mais la plupart des Juifs, ils se sont dit, oh, si on ne va pas au festin d'Assuérus, on va se faire mal voir, etc., machin, bidule. Et ils sont allés. Et ça, c'était la faute. Ils sont rentrés dans des trucs qui les a, excusez-moi l'expression, c'est un peu ridicule de dire, ça les a assimilés. Ils se sont assimilés. Ils sont rentrés dans un système qu'ils n'étaient pas obligés de rentrer. Ils sont rentrés dans un système. Et ça, en vérité, c'est ce que ce Midrash dit. Et c'est ce que ce Midrash dit. Donc là, c'est une référence fondamentale. C'est le Dat Zekinim Bal Atosfot. Voilà. Alors maintenant, on va commencer notre étude. Tout ça, donc, c'était la préparation. D'accord, Benjamin, bienvenue au club. Tu connais pas vraiment comment ça marche, mais en vérité, c'est comme ça. Ça commence quelle heure il est. Bon, on peut commencer. C'est bon. Alors, on va faire le Maharal. Le Rou, les Sivlotechem. Retournez à vos labos. C'est bon, Perek Shoshim, c'est bon. Pirchou, rabotez-nous, zichonam, libracha, nos maîtres, expliquez. Shemot Rabba, dans le Midrash Rabba que je vous ai lu. Shevet Lévi, panouy, aya, mavodat, parer. La tribu de Lévi était libre des travaux forcés. Le Fikar Amar, c'est pourquoi il a dit le Rou les Sivlotechem, retournez à vos labeurs, Klomar, les Mnartechem Asher Babait, vos travaux de la maison. Alors, le Eliaou Mizrahi que je vous ai rapporté relève l'anomalie dans le verset. Que si les travaux, pourquoi dérangez-vous les enfants d'Israël de leurs travaux, comme si Moshe Aaron n'était pas dans leurs travaux, ils étaient dans une autre dynamique. Ça veut dire dans vos travaux dans lesquels vous êtes impliqués vous-même. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la même implication que les enfants d'Israël. Teda lecha la preuve. Sharei Moshe Aaron a eu yotzim shelo birshut paro. C'est que Moshe Aaron sortait sans permission de Pharaon. Velo aya moche, personne ne s'opposait à eux. Et là, Bevadai, Kemo Shamarnu le Mala, donc c'est indubitable que Shevet Lévi aya panoui mavodat par, que la tribu de Lévi était dispensée des travaux forcés. Vézé, qui Shevet Lévi aya Shem Kedusha Nikra Aleem Av Bemitzray. La tribu de Lévi, il y avait sur eux un nom de sainteté proclamé même en Égypte. D'ailleurs, Maïmonide dit dans les lois d'Avodah Zara, justement, que je vous ai cité tout à l'heure, qu'en Égypte, c'était une tribu qui avait une tradition et qui étudiait, qui avait une étude vivace. Qui avait une étude vivace, la tribu de Lévi. Au Bechaye Yosef, Aya Poter et Shevet Lévi, Min Maasamele. Et du vivant de Joseph, la tribu de Lévi était dispensée des impôts du roi. Chez Koladam Moutal Alav Avodat Ameler. Car tout homme s'impose à lui les travaux, les corvées royales. Zulati Akoanim, Shem Koanim, l'école Uma Vurma, En Mutem Aleem, Shebud Ameler. Sauf les prêtres de chaque nation, ils sont dispensés des corvées. Mais Shevet Lévi, Ayan Ikra Lehem, Shem Kohanim, Veovdim, Lakadosh Borou. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Maïmonide, qu'en Égypte, les 11 tribus avaient arrêté de faire la circoncision et arrêter de servir ce Dieu un, ils faisaient l'idolâtrie. Sauf la tribu de Lévi qui continuait à faire la circoncision qu'on dit Brito Insoru, que l'alliance de Dieu, ils gardaient. Ils garderont l'alliance. Donc il y a toujours dans le peuple d'Israël une partie qui garde l'alliance. Voilà. Chez Lévi, Anekra, Léhem, Shem, Kohanim, ils avaient donc un statut de prêtre, que Ovdim, la Kodesh Baruch Hu, ils servaient le Dieu. Bayou, Pturim, Min, Avodat, Amelech.